Gilberte, cependant, ne revenait toujours pas aux Champs-Élysées. Et pourtant, j'aurais eu besoin de la voir, je ne me rappelais même pas sa figure. La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons, notre attente de la parole qui nous donnera ou nous ôtera l'espoir d'un rendez-vous pour le lendemain, et jusqu'à ce que cette parole soit dite, notre imagination alternative, sinon simultanée, de la joie et du désespoir, tout cela rend notre attention en face de l'être aimé trop tremblante pour qu'elle puisse obtenir de lui une image bien nette. Peut-être aussi cette activité de tous les sens à la fois et qui essaye de connaître avec les regards seuls ce qui est au-delà d'eux, est-elle trop indulgente aux mille formes, à toutes les saveurs, aux mouvements de la personne vivante, que d'habitude, quand nous n'aimons pas, nous immobilisons. Le modèle chéri, au contraire, bouge, on n'a jamais que des photographies manquées. Je ne savais vraiment plus comment étaient faits les traits de Gilberte, sauf dans les moments divins où elle les dépliait pour moi, je ne me rappelais que son sourire. Et ne pouvant revoir ce visage bien aimé, quelque effort que je fisse pour m'en souvenir, je m'irritais de trouver dessinés dans ma mémoire avec une exactitude définitive les visages inutiles et frappants de l'homme des chevaux de bois et de la marchande de sucre d'orge. Ainsi, ceux qui ont perdu un être aimé, qu'ils ne revoient jamais en dormant, s'exaspèrent de rencontrer sans cesse dans leurs rêves tant de gens insupportables et que c'est déjà trop d'avoir connu dans l'état de veille. Dans leur impuissance à se représenter l'objet de leur douleur, ils s'accusent presque de n'avoir pas de douleur, et moi je n'étais pas loin de croire que, ne pouvant me rappeler les traits de Gilberte, je l'avais oubliée elle-même, je ne l'aimais plus. Enfin, elle revint jouer presque tous les jours, mettant devant moi de nouvelles choses à désirer, à lui demander pour le lendemain, faisant chaque jour, en ce sens-là, de ma tendresse, une tendresse nouvelle. Mais une chose changea une fois de plus et brusquement la façon dont, tous les après-midi, vers 2 heures, se posait le problème de mon amour. Monsieur Swann avait-il surpris la lettre que j'avais écrite à sa fille, où Gilberte ne faisait-elle que m'avouer longtemps après, et afin que je fusse plus prudent, un état de choses déjà ancien. Comme je lui disais combien j'admirais son père et sa mère, elle prit cet air vague, plein de réticence et de secrets, qu'elle avait quand on lui parlait de ce qu'elle avait à faire, de ses courses et de ses visites, et tout d'un coup finit par me dire « Vous savez, il ne vous gobe pas ». Et glissante comme une ondine, elle était ainsi, elle éclata de rire. Souvent son rire en désaccord avec ses paroles semblait, comme fait la musique, décrire dans un autre plan une surface invisible. Monsieur et Madame Swann ne demandaient pas à Gilberte de cesser de jouer avec moi, mais eussent autant aimé, pensait-elle, que cela n'eût pas commencé. Ils ne voyaient pas mes relations avec elle d'un œil favorable, ne me croyaient pas d'une grande moralité, et s'imaginaient que je ne pouvais exercer sur leur fille qu'une mauvaise influence. Ce genre de jeunes gens peu scrupuleux auxquels Swann me croyait ressembler, je me les représentais comme détestant les parents de la jeune fille qu'ils aiment, les flattant quand ils sont là, mais se moquant d'eux avec elle, la poussant à leur désobéir, et quand ils ont une fois conquis leur fille, les privant même de la voir. À ces traits, qui ne sont jamais ceux sous lesquels le plus grand misérable se voit lui-même, avec quelle violence mon cœur opposait ces sentiments dont il était animé à l'égard de Swann. Si passionné au contraire que je ne doutais pas que s'il les eût soupçonnés, il ne se fût repenti de son jugement à mon égard comme d'une erreur judiciaire. Tout ce que je ressentais pour lui, j'osais le lui écrire dans une longue lettre que je confiais à Gilberte, en la priant de la lui remettre. Elle y consentit. Hélas, Il voyait donc en moi un plus grand imposteur encore que je ne pensais. Ces sentiments que j'avais cru peindre en 16 pages avec tant de vérité, il en avait donc douté. La lettre que je lui écrivis, aussi ardente et aussi sincère que les paroles que j'avais dites à Monsieur de Norpois, n'eut pas plus de succès. Gilberte me raconta le lendemain, après m'avoir emmené à l'écart derrière un massif de lauriers, dans une petite allée où nous nous assîmes chacun sur une chaise, qu'en lisant la lettre qu'elle me rapportait, son père avait haussé les épaules en disant « Tout cela ne signifie rien, cela ne fait que prouver combien j'ai raison ». Moi qui savais la pureté de mes intentions, la bonté de mon âme, j'étais indigné que mes paroles n'eussent même pas effleuré l'absurde erreur de Swann. Car que ce fût une erreur, je n'en doutais pas alors. Je sentais que j'avais décrit avec tant d'exactitude certaines caractéristiques irrécusables de mes sentiments généreux, que pour que d'après elle Swann ne les eût pas aussitôt reconstitués, ne fût pas venu me demander pardon et avouer qu'il s'était trompé, il fallait que ces nobles sentiments, il ne les eût lui-même jamais ressentis, ce qui devait le rendre incapable de les comprendre chez les autres. Or peut-être simplement Swann savait-il que la générosité n'est souvent que l'aspect intérieur que prennent nos sentiments égoïstes quand nous ne les avons pas encore nommés et classés. Peut-être avait-il reconnu dans la sympathie que je lui exprimais un simple effet et une confirmation enthousiaste de mon amour pour Gilberte, par lequel, et non par la vénération secondaire pour lui, serait fatalement dans la suite dirigé mes actes. Je ne pouvais partager ses prévisions, car je n'avais pas réussi à abstraire de moi-même mon amour, à le faire rentrer dans la généralité des autres et à en supputer expérimentalement les conséquences. J'étais désespéré. Je dus quitter un instant Gilberte, Françoise m'ayant appelé. Il me fallut l'accompagner dans un petit pavillon treillissé de verre, assez semblable au bureau d'octroi désaffecté du vieux Paris, et dans lequel était depuis peu installé ce qu'on appelle en Angleterre un lavabo, et en France, par une anglomanie mal informée, des water closets. Les murs vides et anciens de l'entrée, où je restais à attendre Françoise, dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui, m'allégeant aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilberte, me pénétra d'un plaisir, non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant, auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. J'aurais voulu, comme autrefois dans mes promenades du côté de Guermantes, essayer de pénétrer le charme de cette impression qui m'avait saisi, et rester immobile à interroger cette émanation vieillotte qui me proposait non de jouir du plaisir qu'elle ne me donnait que par surcroît, mais de descendre dans la réalité qu'elle ne m'avait pas dévoilée. Mais la tenancière de l'établissement, vieille dame à joues plâtrées et à perruque rousse, se mit à me parler. Françoise la croyait tout à fait bien de chez elle. Sa demoiselle avait épousé ce que Françoise appelait un jeune homme de famille, par conséquent quelqu'un qu'elle trouvait plus différent d'un ouvrier que Saint-Simon, un duc d'un homme sorti de la lie du peuple. Sans doute la tenancière, avant de l'être, avait eu des revers, mais Françoise assurait qu'elle était marquise et appartenait à la famille de Saint-Féréol. Cette marquise me conseilla de ne pas rester au frais et m'ouvrit même un cabinet en me disant « Vous ne voulez pas entrer ?» En voici un tout propre, pour vous ce sera gratis. Elle le faisait peut-être seulement comme les demoiselles de chez Gouache, quand nous venions faire une commande, m'offraient un des bonbons qu'elles avaient sur le comptoir sous des cloches de verre, et que maman me défendait, hélas, d'accepter. Peut-être aussi, moins innocemment, comme telle vieille fleuriste, par qui maman faisait remplir ses jardinières, et qui me donnait une rose en roulant des yeux doux. En tout cas, si la marquise avait du goût pour les jeunes garçons, en leur ouvrant la porte hypogénéenne de ces cubes de pierre, où les hommes sont accroupis comme des sphinx, elle devait chercher dans ses générosités moins l'espérance de les corrompre que le plaisir qu'on éprouve à se montrer vainement prodigue envers ce qu'on aime, car je n'ai jamais vu auprès d'elle d'autres visiteurs qu'un vieux garde forestier du jardin. Un instant après, je prenais congé de la marquise, accompagnée de Françoise, et je quittais cette dernière pour retourner auprès de Gilberte. Je l'aperçus tout de suite sur une chaise, derrière le massif de laurier. C'était pour ne pas être vu de ses amis, on jouait à cache-cache. J'allai m'asseoir à côté d'elle. Elle avait une toque plate qui descendait assez bas sur ses yeux, leur donnant ce même regard en dessous, rêveur et fourbe, que je lui avais vu la première fois à Combray. Je lui demandai s'il n'y avait pas moyen que j'eusse une explication verbale avec son père. Gilberte me dit qu'elle la lui avait proposée, mais qu'il la jugeait inutile. « Tenez, ajouta-t-elle, ne me laissez pas votre lettre, il faut rejoindre les autres, puisqu'ils ne m'ont pas trouvé. » Si Swann était arrivé alors, avant même que je l'eusse reprise, cette lettre de la sincérité de laquelle je trouvais qu'il avait été si insensé de ne pas s'être laissé persuader, peut-être aurait-il vu que c'était lui qui avait raison. Car m'approchant de Gilberte, qui renversée sur sa chaise me disait de prendre la lettre et ne me l'attendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis « Voyons, empêchez-moi de l'attraper, nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle la mit dans son dos, je passai mes mains derrière son cou, en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules, soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulût la faire paraître plus longtemps enfant, afin de se rajeunir elle-même. Nous luttions, arc-boutés. Je tâchais de l'attirer, elle résistait. Ses pommettes, enflammées par l'effort, étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes, comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et au milieu de la gymnastique que je faisais, son corps fut à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis, comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir, auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt je pris la lettre. Alors Gilberte me dit, avec bonté, « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué, mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint? Et moi qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée qu'elle eut un instant après, me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre. J'acceptai de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais proposé d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle. En rentrant, j'aperçus, je me rappelai brusquement l'image, cachée jusque-là, dont m'avait approché sans me la laisser voir ni reconnaître, le frais sentant presque la suie du pavillon taillagé. Cette image était celle de la petite pièce de mon oncle Adolphe à Combray, laquelle exhalait en effet le même parfum d'humidité. Mais je ne pus comprendre, et je remis à plus tard de chercher pourquoi le rappel d'une image si insignifiante m'avait donné une telle félicité. En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain de M. de Norpois. J'avais préféré jusqu'ici à tous les écrivains celui qu'il appelait un simple joueur de flûte, et une véritable exaltation m'avait été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur de moisi. Depuis quelque temps, dans certaines familles, le nom des Champs-Élysées, si quelques visiteurs le prononçaient, était accueilli par les mères avec l'air malveillant qu'elles réservent à un médecin réputé, auquel elles prétendent avoir vu faire trop de diagnostics erronés pour avoir encore confiance en lui. On assurait que ce jardin ne réussissait pas aux enfants, qu'on pouvait citer plus d'un mal de gorge, plus d'une rougeole et nombre de fièvres dont il était responsable. Sans mettre ouvertement en doute la tendresse de maman qui continuait à m'y envoyer, certaines de ses amies déploraient du moins son aveuglement. Les névropathes sont peut-être, malgré l'expression consacrée, ceux qui s'écoutent le moins. Ils entendent en eux tant de choses dont ils se rendent compte ensuite qu'ils avaient eu tort de s'alarmer, qu'ils finissent par ne plus faire attention à aucune. Leur système nerveux leur a si souvent lié au secours, comme pour une grave maladie, quand tout simplement il allait tomber de la neige ou qu'on allait changer d'appartement, qu'ils prennent l'habitude de ne pas plus tenir compte de ces avertissements qu'un soldat, lequel, dans l'ardeur de l'action, les perçoit si peu qu'il est capable, étant mourant, de continuer encore quelques jours à mener la vie d'un homme en bonne santé. Un matin, portant coordonnées en moi mes malaises habituels, de la circulation constante et intestine desquelles je tenais toujours mon esprit détourné, aussi bien que de celle de mon sang, je courais allègrement vers la salle à manger, où mes parents étaient déjà à table. Et m'étant dit, comme d'ordinaire, qu'avoir froid peut signifier non qu'il faut se chauffer, mais par exemple qu'on a été grondé, et ne pas avoir faim, qu'il va pleuvoir, et non qu'il ne faut pas manger, je me mettais à table, quand au moment d'avaler la première bouchée d'une côtelette appétissante, une nausée, un étourdissement m'arrêtèrent. Réponse fébrile d'une maladie commencée, dont la glace de mon indifférence avait masqué, retardé les symptômes, mais qui refusait obstinément la nourriture que je n'étais pas en état d'absorber. Alors, dans la même seconde, la pensée que l'on m'empêcherait de sortir si l'on s'apercevait que j'étais malade me donna, tel l'instinct de conservation à un blessé, la force de me traîner jusqu'à ma chambre, où je vis que j'avais 40 degrés de fièvre, et ensuite de me préparer pour aller aux Champs-Élysées. À travers le corps languissant et perméable dont elle était enveloppée, ma pensée souriante rejoignait, exigeait le plaisir si doux d'une partie de bar avec Gilberte, et une heure plus tard, me soutenant à peine, mais heureux à côté d'elle, j'avais la force de le goûter encore. Françoise, au retour, déclara que je m'étais trouvé indisposé, que j'avais dû prendre un chaud et froid. Et le docteur, aussitôt appelé, déclara préférer la sévérité et la virulence de la poussée fébrile qui accompagnait ma congestion pulmonaire et ne serait qu'un feu de paille à des formes plus insidieuses et larvées. Depuis longtemps déjà, j'étais sujet à des étouffements et notre médecin, malgré la désapprobation de ma grand-mère, qui me voyait déjà mourant alcoolique, m'avait conseillé, outre la caféine qui m'était prescrite pour m'aider à respirer, de prendre de la bière, du champagne ou du cognac quand je sentais venir une crise. Celle-ci avorterait, disait-il, dans l'euphorie causée par l'alcool. J'étais souvent obligé, pour que ma grand-mère permît qu'on m'en donnât, de ne pas dissimuler, de faire presque montre de mon état de suffocation. D'ailleurs, dès que je le sentais s'approcher, toujours incertain des proportions qu'il prendrait, j'en étais inquiet à cause de la tristesse de ma grand-mère, que je craignais beaucoup plus que ma souffrance. Mais en même temps, mon corps, soit qu'il fût trop faible pour garder seul le secret de celle-ci, soit qu'il redoutât que, dans l'ignorance du mal imminent, on exigeât de moi quelque effort qui lui eût été impossible ou dangereux, me donnait le besoin d'avertir ma grand-mère de mes malaises, avec une exactitude où je finissais par mettre une sorte de scrupule physiologique. Apercevais-je en moi un symptôme fâcheux que je n'avais pas encore discerné, mon corps était en détresse tant que je ne l'avais pas communiqué à ma grand-mère. Feignait-elle de n'y prêter aucune attention? Il me demandait d'insister. Parfois j'allais trop loin, et le visage aimé, qui n'était plus toujours aussi maître de ses émotions qu'autrefois, laissait paraître une expression de pitié, une contraction douloureuse. Alors mon cœur était torturé par la vue de la peine qu'elle avait. Comme si mes baisers eussent dû effacer cette peine, comme si ma tendresse eût pu donner à ma grand-mère autant de joie que mon bonheur, je me jetai dans ses bras. Et les scrupules étant d'autre part apaisés par la certitude qu'elle connaissait le malaise ressenti, mon corps ne faisait pas opposition à ce que je la rassurasse. Je protestais que ce malaise n'avait rien de pénible, que je n'étais nullement à plaindre, qu'elle pouvait être certaine que j'étais heureux. Mon corps avait voulu obtenir exactement ce qu'il méritait de pitié, et pourvu qu'on sût qu'il avait une douleur en son côté droit, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que je déclarasse que cette douleur n'était pas un mal et n'était pas pour moi un obstacle au bonheur. Mon corps ne se piquant pas de philosophie, elle n'était pas de son ressort. J'eus presque chaque jour de ces crises d'étouffement pendant ma convalescence. Un soir que ma grand-mère m'avait laissé assez bien, elle rentra dans ma chambre très tard dans la soirée, et s'apercevant que la respiration me manquait, « Oh mon Dieu, comme tu souffres !» s'écria-t-elle, les traits bouleversés. Elle me quitta aussitôt, j'entendis la porte cochère, et elle rentra un peu plus tard avec du cognac qu'elle était allée chercher, parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Bientôt je commençais à me sentir heureux. Ma grand-mère, un peu rouge, avait l'air gênée, et ses yeux, une expression de lassitude et de découragement. « J'aime mieux te laisser et que tu profites un peu de ce mieux, » me dit-elle en me quittant brusquement. Je l'embrassai pourtant, et je sentis sur ses joues fraîches quelque chose de mouillé, dont je ne sus pas si c'était l'humidité de l'air nocturne qu'elle venait de traverser. Le lendemain, elle ne vint que le soir dans ma chambre, parce qu'elle avait eu, me dit-on, à sortir. Je trouvai que c'était montrer bien de l'indifférence pour moi, et je me retins pour ne pas la lui reprocher. Mes suffocations ayant persisté, alors que ma congestion depuis longtemps finie ne les expliquait plus, mes parents firent venir en consultation le professeur Cottard. Il ne suffit pas à un médecin appelé dans des cas de ce genre d'être instruit. Mis en présence de symptômes qui peuvent être ceux de 3 ou 4 maladies différentes, c'est en fin de compte son flair, son coup d'œil, qui décide à laquelle, malgré les apparences à peu près semblables, il y a chance qu'il ait affaire. Ce don mystérieux n'implique pas de supériorité dans les autres parties de l'intelligence, et un être d'une grande vulgarité, aimant la plus mauvaise peinture, la plus mauvaise musique, n'ayant aucune curiosité d'esprit, peut parfaitement le posséder. Dans mon cas, ce qui était matériellement observable pouvait aussi bien être causé par des spasmes nerveux, par un commencement de tuberculose, par de l'asthme, par une dyspneutoxie alimentaire avec insuffisance rénale, par de la bronchite chronique, par un état complexe dans lequel seraient entrés plusieurs de ces facteurs. Or, Les spasmes nerveux demandaient à être traités par le mépris, la tuberculose par de grands soins et par un genre de suralimentation qui eût été mauvaise pour un état arthritique comme l'asthme et eût pu devenir dangereux en cas de dyspnée toxi-alimentaire, laquelle exige un régime qui, en revanche, serait néfaste pour un tuberculeux. Mais les hésitations de Cottard furent courtes et ses prescriptions impérieuses. Purgatif violent et drastique, lait pendant plusieurs jours, rien que du lait. Pas de viande, pas d'alcool. Ma mère murmura que j'avais pourtant bien besoin d'être constitué, que j'étais déjà assez nerveux, que cette purge de cheval et ce régime me mettraient à bas. Je vis aux yeux de Cottard, aussi inquiet que s'il avait peur de manquer le train, qu'il se demandait s'il ne s'était pas laissé aller à sa douceur naturelle. Il tâchait de se rappeler s'il avait pensé à prendre un masque froid, comme on cherche une glace pour regarder si on n'a pas oublié de nouer sa cravate. Dans le doute, et pour faire à tout hasard compensation, il répondit grossièrement: « Je n'ai pas l'habitude de répéter deux fois mes ordonnances, donnez-moi une plume, et surtout au lait. Plus tard, quand nous aurons jugulé les crises et la grippnie, je veux bien que vous preniez quelques potages, puis des purées, mais toujours au lait, au lait. » « Cela vous plaira puisque l'Espagne est à la mode. Au lait, au lait. » Ses élèves connaissaient bien ce calembour qu'il faisait à l'hôpital chaque fois qu'il mettait un cardiaque ou un hépatique au régime lacté. « Ensuite, vous reviendrez progressivement à la vie commune, mais chaque fois que la toux et les étouffements recommenceront, purgatifs, lavages intestinaux, lit, lait. » Il écouta d'un air glacial sans y répondre les dernières objections de ma mère, et comme il nous quitta sans avoir daigné expliquer les raisons de ce régime, mes parents le jugèrent sans rapport avec mon cas, inutilement affaiblissant, et ne me le firent pas essayer. Ils cherchèrent naturellement à cacher aux professeurs leur désobéissance, et pour y réussir plus sûrement, évitèrent toutes les maisons où ils auraient pu le rencontrer. Puis, mon état s'aggravant, on se décida à me faire suivre à la lettre les prescriptions de Cottard. Au bout de 3 jours, je n'avais plus de râle, plus de toux, et je respirais bien. Alors nous comprîmes que Cottard, tout en me trouvant, comme il le dit dans la suite, assez asthmatique et surtout toqué, avait discerné que ce qui prédominait en ce moment-là en moi, c'était l'intoxication, et qu'en faisant couler mon foie et en lavant mes reins, il décongestionnerait mes bronches, me rendrait le souffle, le sommeil, les forces. Et nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien. Je pus enfin me lever, mais on parlait de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées. On disait que c'était à cause du mauvais air. Je pensais bien qu'on profitait du prétexte pour que je ne puisse plus voir Mademoiselle Swann, et je me contraignais à redire tout le temps le nom de Gilberte, comme ce langage natal que les vaincus s'efforcent de maintenir pour ne pas oublier la patrie qu'ils ne reverront pas. Quelquefois, ma mère passait sa main sur mon front en me disant « Alors, les petits garçons ne racontent plus à leur maman les chagrins qu'ils ont ?» Françoise s'approchait tous les jours de moi en me disant « Monsieur a une mine, vous ne vous êtes pas regardé, on dirait un mort. » Il est vrai que si j'avais eu un simple rhume, Françoise eût pris le même air funèbre. Ses déplorations venaient plus à sa classe qu'à mon état de santé. Je ne démêlais pas alors si ce pessimisme était chez Françoise douloureux ou satisfait. Je conclus provisoirement qu'il était social et professionnel. Un jour, à l'heure du courrier, ma mère posa sur mon lit une lettre. Je l'ouvris distraitement puisqu'elle ne pouvait pas porter la seule signature qui m'eût rendu heureux, celle de Gilberte, avec qui je n'avais pas de relation en dehors des Champs-Élysées. Or, Au bas du papier, timbré d'un sceau d'argent représentant un chevalier casqué sous lequel se contournait cette devise « Per viam rectam », au-dessous d'une lettre d'une grande écriture, et où presque toutes les phrases semblaient soulignées, simplement parce que la barre des T étant tracée non au travers d'eux mais au-dessus, mettait un trait sous le mot correspondant de la ligne supérieure, ce fut justement la signature de Gilberte que je vis. Mais parce que je la savais impossible dans une lettre adressée à moi, cette vue, non accompagnée de croyance, ne me causa pas de joie. Pendant un instant, elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait. Avec une vitesse vertigineuse, cette signature sans vraisemblance jouait aux quatre coins avec mon lit, ma cheminée, mon mur. Je voyais tout vaciller comme quelqu'un qui tombe de cheval, et je me demandais s'il n'y avait pas une existence toute différente de celle que je connaissais, en contradiction avec elle, mais qui serait la vraie, et qui, m'étant montré tout d'un coup, me remplissait de cette hésitation que les sculpteurs dépeignant le jugement dernier ont donné aux morts réveillés qui se trouvent au seuil de l'autre monde. « Mon cher ami, disait la lettre, j'ai appris que vous aviez été très souffrant et que vous ne veniez plus aux Champs-Élysées. Moi, je n'y vais guère non plus parce qu'il y a énormément de malades. Mais mes amis viennent goûter tous les lundis et vendredis à la maison. Maman me charge de vous dire que vous nous feriez très grand plaisir en venant aussi dès que vous serez rétabli. Et nous pourrions reprendre à la maison nos bonnes causeries des Champs-Élysées. Adieu, mon cher ami. J'espère que vos parents vous permettront de venir très souvent goûter. Et je vous envoie toutes mes amitiés. Gilberte. Tandis que je lisais ces mots, mon système nerveux recevait avec une diligence admirable la nouvelle qu'il m'arrivait un grand bonheur. Mais mon âme, c'est-à-dire moi-même, et en somme le principal intéressé, l'ignorait encore. Le bonheur par Gilberte, c'était une chose à laquelle j'avais constamment songé. Une chose tout en pensée, c'était, comme disait Léonard de la peinture, « cosa mentale ». Une feuille de papier couverte de caractères, la pensée ne s'assimile pas cela tout de suite, mais dès que j'eus terminé la lettre, je pensais à elle. Elle devint un objet de rêverie, elle devint elle aussi « cosa mentale ». Et je l'aimais déjà tant que toutes les 5 minutes, il me fallait la relire, l'embrasser. Alors je connus mon bonheur. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Il est possible que celui-ci eût été provoqué artificiellement par ma mère, qui, voyant que depuis quelque temps j'avais perdu tout cœur à vivre, avait peut-être fait demander à Gilberte de m'écrire, comme au temps de mes premiers bains de mer, pour me donner du plaisir à plonger, ce que je détestais parce que cela me coupait la respiration, elle remettait en cachette à mon guide baigneur de merveilleuses boîtes en coquillages et des branches de corail que je croyais trouver moi-même au fond des eaux. D'ailleurs, pour tous les événements qui, dans la vie et ses situations contrastées, se rapportent à l'amour, le mieux est de ne pas essayer de comprendre. Puisque dans ce qu'ils ont d'inexorable, comme d'inespéré, ils semblent régis par des lois plutôt magiques que rationnelles. Quand un multimillionnaire, homme malgré cela charmant, reçoit son congé d'une femme pauvre et sans agrément avec qui il vit, appelle à lui dans son désespoir toutes les puissances de l'or et fait jouer toutes les influences de la terre, sans réussir à se faire reprendre, mieux vaut, devant l'invincible entêtement de sa maîtresse, supposer que le destin veut l'accabler et le faire mourir d'une maladie de cœur, plutôt que de chercher une explication logique. Ces obstacles contre lesquels les amants ont à lutter et que leur imagination surexcitée par la souffrance cherche en vain à deviner résident parfois dans quelques singularités de caractère de la femme qu'ils ne peuvent ramener à eux. Dans sa bêtise, dans l'influence qu'ont prise sur elle et les craintes que lui ont suggérées des êtres que l'amant ne connaît pas, dans le genre de plaisir qu'elle demande momentanément à la vie, plaisir que ni son amant, ni la fortune de son amant ne peuvent lui offrir. En tout cas, l'amant est mal placé pour connaître la nature des obstacles que la ruse de la femme lui cache et que son propre jugement, faussé par l'amour, l'empêche d'apprécier exactement. Il ressemble à cette humeur que le médecin finit par réduire, mais sans en avoir connu l'origine. Comme elle, ces obstacles restent mystérieux mais sont temporaires, seulement ils durent généralement plus que l'amour. Et comme celui-ci n'est pas une passion désintéressée, l'amoureux qui n'aime plus ne cherche pas à savoir pourquoi la femme pauvre et légère qu'il aimait s'est obstinément refusée pendant des années à ce qu'il continuât à l'entretenir. Or, le même mystère qui dérobe aux yeux souvent la cause des catastrophes quand il s'agit de l'amour entoure tout aussi fréquemment la soudaineté de certaines solutions heureuses, telle que celle qui m'était apportée par la lettre de Gilberte. Solution heureuse, ou du moins qui paraissent l'être, car il n'y en a guère qui le soit réellement quand il s'agit d'un sentiment d'une telle sorte que toute satisfaction qu'on lui donne ne fait généralement que déplacer la douleur. Parfois pourtant une trêve est accordée, et l'on a pendant quelque temps l'illusion d'être guéri. En ce qui concerne cette lettre au bas de laquelle François se refusa à reconnaître le nom de Gilberte, parce que le G historié appuyé sur un I sans point avait l'air d'un A, tandis que la dernière syllabe était indéfiniment prolongée à l'aide d'un paraphe dentelé, si l'on tient à chercher une explication rationnelle du revirement qu'elle traduisait et qui me rendait si joyeux, peut-être pourra-t-on penser que j'en fus pour une part redevable à un incident que j'avais cru au contraire de nature à me perdre à jamais dans l'esprit des Swann. Peu de temps auparavant, Bloch était venu me voir pendant que le professeur Cottard, que depuis que je suivais son régime on avait fait revenir, se trouvait dans ma chambre. La consultation étant finie et Cottard restant seulement visiteur parce que mes parents l'avaient retenu à dîner, on laissa entrer Bloch. Comme nous étions tous en train de causer, Bloch ayant raconté qu'il avait entendu dire que Madame Swann m'aimait beaucoup par une personne avec qui il avait dîné la veille et qui elle-même était très liée avec Madame Swann, j'aurais voulu lui répondre qu'il se trompait certainement. Et bien établir, par le même scrupule qui me l'avait fait déclarer à M. de Norpois, et de peur que Mme Swann me prît pour un menteur, que je ne la connaissais pas et ne lui avais jamais parlé. Mais je n'eus pas le courage de rectifier l'erreur de Bloch, parce que je compris bien qu'elle était volontaire, et que s'il inventait quelque chose que Mme Swann n'avait pas pu dire, en effet, c'était pour faire savoir ce qu'il jugeait flatteur et ce qui n'était pas vrai, qu'il avait dîné à côté d'une des amies de cette dame. Or, il arriva que, tandis que M. de Norpois, apprenant que je ne connaissais pas et aurait aimé connaître Mme Swann, s'était bien gardé de lui parler de moi, Cottard, qu'elle avait pour médecin, ayant induit de ce qu'il avait entendu dire à Bloch qu'elle me connaissait beaucoup et m'appréciait, pensa que, quand il la verrait, dire que j'étais un charmant garçon avec lequel il était lié ne pourrait en rien être utile pour moi et serait flatteur pour lui, de raison qu'il le décidèrent à parler de moi à Odette dès qu'il en trouva l'occasion. Alors je connus cet appartement d'où dépassait jusque dans l'escalier le parfum dont se servait Madame Swann, mais qu'embaumait bien plus encore le charme particulier et douloureux qui émanait de la vie de Gilberte. L'implacable concierge, changé en une bienveillante Euménide, prit l'habitude, quand je lui demandais si je pouvais monter, de m'indiquer, en soulevant sa casquette d'une main propice, qu'il exaucait ma prière. Les fenêtres qui, du dehors, interposaient entre moi et les trésors qui ne m'étaient pas destinés à un regard brillant, distant et superficiel, qui me semblait le regard même des swans, il m'arriva, quand à la belle saison j'avais passé tout un après-midi avec Gilberte dans sa chambre, de les ouvrir moi-même pour laisser entrer un peu d'air, et même de m'y pencher à côté d'elle, si c'était le jour de réception de sa mère, pour voir arriver les visites, qui souvent, levant la tête en descendant de voiture, me faisaient bonjour de la main, me prenant pour quelque neveu de la maîtresse de maison. Les nattes de Gilberte, dans ces moments-là, touchaient ma joue. Elles me semblaient, en la finesse de leur gramène, à la fois naturelles et surnaturelles. Et la puissance de leur rinceau d'art, un ouvrage unique, pour lequel on avait utilisé le gazon même du paradis. À une section même infime d'elle, quel herbier céleste n'eussais-je pas donné comme chasse? Mais n'espérant point obtenir un morceau vrai de ces nattes, si au moins j'avais pu en posséder la photographie, combien plus précieuse que celle de Fleurette dessinée par le Vinci. Pour en avoir une, je fis auprès d'amis des swans et même de photographes des bassesses qui ne me procurèrent pas ce que je voulais, mais me lièrent pour toujours avec des gens très ennuyeux. Les parents de Gilberte, qui si longtemps m'avaient empêché de la voir, maintenant, quand j'entrais dans la sombre antichambre où planait perpétuellement, plus formidable et plus désirée que jadis à Versailles, l'apparition du roi, la possibilité de les rencontrer, et où habituellement, après avoir buté contre un énorme porte-manteau à sept branches comme le chandelier de l'écriture, je me confondais en salutation devant un valet de pied assis dans sa longue jupe grise sur le coffre de bois, et que dans l'obscurité j'avais pris pour Madame Swann, les parents de Gilberte, si l'un d'eux se trouvait à passer au moment de mon arrivée, loin d'avoir l'air irrité, me serrait la main en souriant et me disait « Comment allez-vous » Qu'ils prononçaient tous deux « Comment allez-vous » sans faire la liaison du T. Liaison qu'on pense bien qu'une fois rentré à la maison, je me faisais un incessant et voluptueux exercice de supprimer. « Gilberte, sait-elle que vous êtes là ? Alors je vous quitte. » Bien plus les goûters eux-mêmes que Gilberte offrait à ses amis et qui si longtemps m'avaient paru la plus infranchissable des séparations accumulées entre elle et moi, devenaient maintenant une occasion de nous réunir, dont elle m'avertissait par un mot, écrit parce que j'étais une relation encore assez nouvelle, sur un papier à lettres toujours différent. Une fois, il était orné d'un caniche bleu en relief surmontant une légende humoristique écrite en anglais et suivie d'un point d'exclamation, une autre fois timbré d'une encre marine ou du chiffre GS, démesurément allongé en un rectangle qui tenait toute la hauteur de la feuille, ou encore du nom Gilberte, tantôt tracé en travers dans un coin en caractère doré qui imitait la signature de mon ami, et finissé par un paraphe, au-dessous d'un parapluie ouvert imprimé en noir, tantôt enfermé dans un monogramme en forme de chapeau chinois, qui en contenait toutes les lettres en majuscules, sans qu'il fût possible d'en distinguer une seule. Enfin, comme la série des papiers à lettres que Gilberte possédait, pour nombreuse que fût cette série, n'était pas illimitée, au bout d'un certain nombre de semaines, je voyais revenir celui qui portait, comme la première fois qu'elle m'avait écrit, la devise « Perviam rectam » au-dessous du chevalier casqué dans une médaille d'argent bruni. Et chacun était choisi tel jour plutôt que tel autre en vertu de certains rites, pensais-je alors, mais plutôt, je le crois maintenant, parce qu'elle cherchait à se rappeler ce dont elle s'était servie les autres fois, de façon à ne jamais envoyer le même à un de ses correspondants, au moins de ceux pour qui elle prenait la peine de faire des frais, qu'aux intervalles les plus éloignés possibles. Comme à cause de la différence des heures de leur leçon, certaines des amies que Gilberte invitait à ses goûters étaient obligées de partir comme les autres arrivaient seulement. Dès l'escalier, j'entendais s'échapper de l'antichambre un murmure de voix qui, dans l'émotion que me causait la cérémonie imposante à laquelle j'allais assister, rompait brusquement, bien avant que j'atteignisse le palier, les liens qui me rattachaient encore à la vie antérieure, émoté jusqu'au souvenir d'avoir à retirer mon foulard une fois que je serai au chaud, et de regarder l'heure pour ne pas rentrer en retard. Cet escalier, d'ailleurs, tout en bois, comme on en faisait alors dans certaines maisons de rapport de ce style Henri II, qui avait été si longtemps l'idéal d'Odette et dont elle devait bientôt se déprendre, et pourvu d'une pancarte sans équivalent chez nous, sur laquelle on lisait ces mots, « Défense de se servir de l'ascenseur pour descendre », me semblait quelque chose de tellement prestigieux que je dis à mes parents que c'était un escalier ancien rapporté de très loin par M. Swann. Mon amour de la vérité était si grand que je n'aurais pas hésité à leur donner ce renseignement, même si j'avais su qu'il était faux, car seul il pouvait leur permettre d'avoir, pour la dignité de l'escalier des Swann, le même respect que moi. C'est ainsi que, devant un ignorant qui ne peut comprendre en quoi consiste le génie d'un grand médecin, on croirait bien faire de ne pas avouer qu'il ne sait pas guérir le rhume de cerveau. Mais comme je n'avais aucun esprit d'observation, comme en général je ne savais ni le nom ni l'espèce des choses qui se trouvaient sous mes yeux, et comprenais seulement que quand elles approchaient les Swann, elles devaient être extraordinaires, il ne me parut pas certain qu'en avertissant mes parents de leur valeur artistique et de la provenance lointaine de cet escalier, je commisse un mensonge. Cela ne me parut pas certain, mais cela dut me paraître probable, car je me sentis devenir très rouge quand mon père m'interrompit en disant « Je connais ces maisons-là, j'en ai vu une, elles sont toutes pareilles, Swann occupe simplement plusieurs étages. C'est Berlier qui les a construites. » Il ajouta qu'il avait voulu louer dans l'une d'elles, mais qu'il avait renoncé, ne les trouvant pas commodes et l'entrée pas assez claire. Il le dit. Mais je sentis instinctivement que mon esprit devait faire au prestige des Swann et à mon bonheur les sacrifices nécessaires, et par un coup d'autorité intérieure, malgré ce que je venais d'entendre, j'écartai à tout jamais de moi, comme un dévot la vie de Jésus de Renan, la pensée dissolvante que leur appartement était un appartement quelconque que nous aurions pu habiter. Cependant, ces jours de goûter, m'élevant dans l'escalier, marche à marche, déjà dépouillé de ma pensée et de ma mémoire, n'étant plus que le jouet des plus vils réflexes, j'arrivais à la zone où le parfum de Madame Swann se faisait sentir. Je croyais déjà voir la majesté du gâteau au chocolat entouré d'un cercle d'assiettes à petit four et de petites serviettes damassées grises à dessin, exigées par l'étiquette et particulières aux Swann. Mais cet ensemble inchangeable et réglé semblait, comme l'univers nécessaire de Kant, suspendu à un acte suprême de liberté. Car quand nous étions tous dans le petit salon de Gilberte, tout d'un coup, regardant l'heure, elle disait « Dites donc, mon déjeuner commence à être loin. Je ne dîne qu'à 8 heures. J'ai bien envie de manger quelque chose. Qu'en diriez-vous ?» Et elle nous faisait entrer dans la salle à manger, sombre comme l'intérieur d'un temple asiatique peint par Rembrandt, et où un gâteau architectural, aussi débonnaire et familier qu'il était imposant, semblait trôner là, à tout hasard, comme un jour quelconque, pour le cas où il aurait pris fantaisie à Gilberte de le découronner de ses créneaux en chocolat et d'abattre ses remparts aux pentes fauves et raides, cuites au four comme les bastions du palais de Darius. Bien mieux pour procéder à la destruction de la pâtisserie ninitive, Gilberte ne consultait pas seulement sa faim, elle s'informait encore de la mienne, tandis qu'elle extrayait pour moi du monument écroulé tout un pan verni et cloisonné de fruits écarlates dans le goût oriental. Elle me demandait même l'heure à laquelle mes parents dînaient, comme si je l'avais encore su, comme si le trouble qui me dominait avait laissé persister la sensation de l'inappétence ou de la faim, la notion du dîner ou l'image de la famille dans ma mémoire vide et mon estomac paralysé. Malheureusement, cette paralysie n'était que momentanée. Les gâteaux que je prenais sans m'en apercevoir, il viendrait un moment où il faudrait les digérer. Mais il était encore lointain. En attendant, Gilberte me faisait monter. J'en buvais indéfiniment, alors qu'une seule tasse m'empêchait de dormir pour 24 heures. Aussi, ma mère avait-elle l'habitude de dire « C'est ennuyeux, cet enfant ne peut aller chez les Swann sans rentrer malade. » Mais savais-je seulement quand j'étais chez les Swann que c'était du thé que je buvais? L'eussais-je su que j'en eusse pris tout de même? Car en admettant que j'eusse recouvré un instant le discernement du présent, cela ne m'eût pas rendu le souvenir du passé et la prévision de l'avenir. Mon imagination n'était pas capable d'aller jusqu'au temps lointain où je pourrais avoir l'idée de me coucher et le besoin du sommeil. Les amis de Gilbert n'étaient pas toutes plongées dans cet état d'ivresse où une décision est impossible. Certaines refusaient du thé. Alors Gilbert disait, phrase très répandue à cette époque, « Décidément, je n'ai pas de succès avec mon thé. » Et pour effacer davantage l'idée de cérémonie, dérangeant l'ordre des chaises autour de la table, « Nous avons l'air d'une noce. Mon Dieu, que les domestiques sont bêtes !» Elle grignotait, assise de côté sur un siège en forme d'X et placée de travers, même comme si elle eût pu avoir tant de petits fours à sa disposition sans avoir demandé la permission à sa mère, quand Madame Swann, dont le jour coïncidait d'ordinaire avec les goûters de Gilberte, après avoir reconduit une visite, entrée un moment après, en courant, quelquefois habillée de velours bleu, souvent dans une robe en satin noir couverte de dentelles blanches, elle disait d'un air étonné, « Tiens, ça a l'air bon ce que vous mangez là. Cela me donne faim de vous voir manger du cake. » « Eh bien, maman, nous vous invitons !» répondait Gilberte. « Mais non, mon trésor, qu'est-ce que diraient mes visites? J'ai encore Madame Trombert, Madame Cottard et Madame Bontemps. Tu sais que chère Madame Bontemps ne fait pas des visites très courtes, et elle vient seulement d'arriver. Qu'est-ce qu'ils diraient, toutes ces bonnes gens, de ne pas me voir revenir ?» S'il ne vient plus personne, je reviendrai bavarder avec vous, ce qui m'amusera beaucoup plus, quand elles seront parties. Je crois que je mérite d'être un peu tranquille. J'ai eu 45 visites et sur 45, il y en a eu 42 qui ont parlé du tableau de Jérôme. Mais venez donc un de ces jours, me disait-elle, prendre votre thé avec Gilberte, elle vous le fera comme vous l'aimez, comme vous le prenez dans votre petit studio, ajoutait-elle tout en s'enfuyant vers ses visites, et comme si ça avait été quelque chose d'aussi connu de moi que mes habitudes, fût celle que j'aurais eue de prendre le thé si j'en avais jamais pris, quant à un studio j'étais incertain si j'en avais un ou non, que j'étais venu chercher dans ce monde mystérieux. Quand viendrez-vous? Demain? On vous fera des toasts aussi bons que chez Colombin. Non, vous êtes un vilain, disait-elle, car depuis qu'elle aussi commençait à avoir un salon, elle prenait les façons de Madame Verdurin, son ton de despotisme minaudier. Les toasts m'étant d'ailleurs aussi inconnus que Colombin, cette dernière promesse n'aurait pu ajouter à ma tentation. Il semblera plus étrange, puisque tout le monde parle ainsi, et peut-être même maintenant à Combray, que je n'eusse pas, à la première minute, compris de qui voulait parler Madame Swann, quand je l'entendis me faire l'éloge de notre vieille nurse. Je ne savais pas l'anglais. Je compris bientôt pourtant que ce mot désignait Françoise, moi qui, aux Champs-Élysées, avais eu si peur de la fâcheuse impression qu'elle devait produire. J'appris par Madame Swann que c'est tout ce que Gilberte lui avait raconté sur ma nurse, qui leur avait donné, à elle et à son mari, de la sympathie pour moi. On sent qu'elle vous est si dévouée, qu'elle est si bien. Aussitôt, je changeai entièrement d'avis sur Françoise. Par contre-coup, avoir une institutrice pourvue d'un caoutchouc et d'un plumet ne me sembla plus chose si nécessaire. Enfin, je compris par quelques mots échappés à Madame Swann sur Madame Blatin, dont elle reconnaissait la bienveillance, mais redoutait les visites, que des relations personnelles avec cette dame ne m'eussent pas été aussi précieuses que j'avais cru, et n'eussent amélioré en rien ma situation chez les Swann.